D'ONG Unterstützung für autonome Entwicklung, kurz ADA, finanziert aber begleitet Mikrofinanzierungsinstitute, die ihrerseits Leuten Zielländer von der Entwicklungshilfe prägen können akkordieren. Endlich hat die Organisation über den Fonds für Mikrofinanzen und Entwicklung im Ganzen prägen an der Höhe von über 20 Millionen Euro akkordiert. 10. Juni hat Laura Foski, Direktion von der Organisation, überholt. Mathieu geht jetzt über die Arbeit von ADA und über den Impact von Mikroprähen. François Keller fährt durch Gespräch.
41 institutions de microfinancement conseillées et financées dans 18 pays cibles de l'aide au développement, entre autres en Afrique, Amérique centrale et en Asie. Tel est le bilan de l'ADA pour l'année passée. Bonjour Laura Foski.
Bonjour.
Le but de l'ONG appui au développement autonome et la réduction de la pauvreté. Vous proposez donc des solutions financières aux bénéficiaires à travers des microfinancements. Est-ce que vous pouvez citer un exemple concret pour lequel ces financements ont durablement réduit la pauvreté?
Oui. Disons que faire du microcrédit ou soutenir le microcrédit signifie donner de la confiance et donner du crédit aux personnes qui normalement n'ont pas accès. Un exemple très récent, parce que je reviens du Maroc dans lequel j'ai passé quelques temps avec nos partenaires, et c'est celui d'une femme couturière qui est spécialisée dans la création des robes de mariage et qui a reçu de la part d'une institution de microfinance marocaine un crédit de 250 euros la première fois pour acheter des machines à coudre et louer un local pour faire son atelier. Et donc, avec cette activité, elle a pu améliorer, avoir plus de revenus, pouvoir acheter et plus des matériels et aussi pouvoir faire appel à une aide, donc avoir des employés, notamment deux aujourd'hui, qui l'aident dans son travail. Et donc la qualité de la vie de sa famille a également amélioré et surtout son business. C'est important de ça, elle est devenue quelqu'un avec beaucoup plus de confiance en soi et avec un business qui travaille beaucoup mieux.
Donc ce cas-là, le crédit a servi à améliorer l'activité et donc à accroître le revenu de la personne concernée. Dans votre dernier rapport annuel, on a pu lire que c'était quand même aussi des crédits, par exemple, d'amélioration pour l'habitat qui ont été très plébiscités. Donc là, dans ce cas-là, c'est un crédit qui ne va pas forcément générer plus de revenus. Donc est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas quand même un risque de surendettement ou que les gens n'aient pas la possibilité de rembourser le crédit?
C'est en fait un souci qu'on est qui tous les services financiers qu'on offre à travers nos partenaires sur place puissent être bien gérés et accueillis par les clients finaux. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très, très attentif. Peut-être, vous le savez, la microfinance est passée de l'offre d'un crédit pour les activités économiques, comme ce dont je viens faire l'exemple tout à l'heure, à des produits et des services qui sont beaucoup plus variés, comme l'habitat, par exemple. Et dans l'octroi d'un crédit à l'habitat, on est vraiment très attentif que la personne qui le reçoit, notamment c'est la famille et c'est jamais un seul individu, puisse être capable de le rembourser sans impacter la qualité de vie de tous les jours. Notamment ce type de services financiers pour l'habitat qu'on a expérimenté en Amérique centrale sont vraiment structurés sur la base des revenus de la famille et sont échelonnés selon les travaux que petit à petit la famille entame pour l'amélioration de la maison.
Donc, il y a bien des critères dont on doit tenir compte. Donc, vous et le Luxembourg Microfinance and Development Fund, vous financez des institutions de microfinancement qui remplissent certains critères d'éligibilité.
Tout à
fait. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations sur ces critères?
Quels sont
ces critères?
Bien sûr. On est très attentif et très sélectif dans notre identification des potentielles institutions dans lesquels on investit. Notamment, on suit les critères qui s'appellent les standards universels de la performance sociale, donc toute une série des critères sociaux qui concernent l'impact sur les clients, et notamment le respect du client et la protection du client, mais aussi la gouvernance dans l'institution et également les traitements des employés. Donc on regarde vraiment l'institution dans toutes ces initiatives de gestion, donc en interne employés et en externe clients, mais aussi dans sa gouvernance, qui soit une gouvernance transparente et qui permette la durabilité et un impact considérable vis-à-vis de la clientèle. Et évidemment, on analyse tous les critères et les indicateurs financiers, parce qu'on est un fonds d'investissement, donc LMDF est un fonds d'investissement, et donc nous, on doit être attentif à la capacité de remboursement de l'institution, de l'investissement qu'on lui offre, et surtout à la transparence et dans le respect de tout ce qui est anti-money laundering, et ici, toutes les règles que le fonds d'investissement doit suivre.
Et vous gérez ça depuis le Luxembourg, enfin votre organisation compte 43 membres, si je ne suis
personne,
pas mal informée, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez assurer une présence sur le terrain auprès des institutions, ou est-ce que vous devez quand même gérer depuis le Luxembourg?
Alors, notre équipe est principalement basée au Luxembourg. On a aujourd'hui une personne basée au Kenya, notamment qui s'occupe de la partie investissement, et une autre basée au Burkina, qui s'occupe d'un projet des finances digitales. On se base beaucoup sur les partenariats locaux, que ce soit pour ce qui concerne l'appui technique aux institutions ou l'investissement. Donc on a une équipe pour l'investissement de 8 personnes qui voyagent beaucoup et qui entament avec les institutions de microfinance des partenariats de longue durée.
Est-ce que vous avez déjà fait une expérience, une mauvaise expérience avec une institution?
Malheureusement, oui. Disons qu'en termes d'investissement, l'expérience mauvaise qu'on a eue, et heureusement, sont très rares, mais ça arrive, concerne des situations de fraude interne à l'institution que c'est assez difficile de détecter et qu'une fois détectée, malheureusement, met en précarité et porte l'institution vraiment en situation de faillite.
Vous avez déjà cité l'exemple de la femme la bénéficiaire qui a profité d'un crédit qui a su améliorer son business. Donc en fait, la plus grande partie, presque 80% des micro-entrepreneurs sont des femmes.
Oui.
Est-ce que vous pouvez illustrer quel impact est-ce que ça a sur leur rôle dans les sociétés et aussi sur leur autonomie?
Bien sûr. Alors les femmes, c'est un élément très objectif, rembourse mieux, parce que les femmes sont plus responsables vis-à-vis de la gestion d'un budget, sont plus responsables et plus capables de comprendre les besoins qu'il y a à l'intérieur de la famille, parce que c'est un besoin quotidien qu'elles gèrent en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes d'éducation. Donc elles savent tout de suite répartir à l'intérieur de la famille les revenus qui sont revenus en plus grâce à l'octroi, à la réception d'un service financier comme les crédits. Viser les femmes signifie donner ce qu'en jargon on appelle l'empowerment, donc donner plus de confiance et plus d'autonomie et prendre une position différente à l'intérieur de la famille, de la communauté et de la société également.
Vous avez également, vous luttez également pour une inclusion financière. Donc, il y a de nombreuses personnes, surtout dans les pays les plus pauvres, qui n'ont pas accès ou qui habitent dans des zones rurales où il n'y a pas de banque. Voilà. Donc, est-ce que le digital banking, c'est également une priorité?
Tout à fait. Dans les dernières études de la Banque mondiale qui sont sorties il y a quelques mois, il y a encore 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux services financiers. Et dans les pays en développement, moins de 50% des adultes a accès à un compte bancaire. Donc avoir accès à un compte bancaire, qui signifie pour nous la bancarisation, signifie avoir à disposition un compte pour déposer son épargne, pour faire des transactions, pour recevoir un crédit également. Donc ce qui fait que l'espace pour une amélioration est encore là, et la finance digitale, les outils digitaux peuvent énormément aider, surtout quand il s'agit de réduire les coûts des transactions pour les institutions de microfinance, mais surtout pour atteindre des personnes qui sont vraiment éloignées et qui vivent dans des zones rurales.
Et est-ce que vous conseillez également les bénéficiaires à ce que, par exemple, à diversifier leur offre pour qu'ils aient plus de moyens pour rembourser les crédits qu'on leur a offerts?
Bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on travaille beaucoup avec les partenaires, donc on ne fait pas des actions directement avec les 43 personnes qu'on a au Luxembourg. Donc, nos partenaires sur le terrain, on les aide afin qu'eux, finalement, puissent aider les clients finaux et donc les micro-entrepreneurs à pouvoir améliorer leur activité sur place. Et on les aide, on a notamment un nouveau projet qui est parti, c'est un projet de recherche qui s'occupe de la santé financière des clients finaux, donc des micro-entrepreneurs. Donc comprendre comment eux peuvent améliorer leurs activités, pas seulement en question de développement d'un business ou d'autres revenus qui peuvent rentrer à l'intérieur de la famille, par exemple, mais aussi de comprendre comment, en situation de crise financière, ils peuvent mettre en place des nouvelles actions afin de pouvoir être résilients. La résilience, c'est les termes nouveaux aujourd'hui. Et aussi, en finance, c'est très important.
Invitée dans le studio ce matin est Laura Foschi de l'ADA, appui au développement autonome. Vous avez déjà parlé maintenant d'un nouveau programme que vous avez lancé. Vous avez également lancé un nouveau programme appui aux micro et petites entreprises. Tout à fait, ouais. Donc, non seulement les entrepreneurs individuels, mais des petites entreprises. Voilà, comment ça fonctionne? Est-ce que ça a eu un bon départ?
C'est un très bon départ. On a commencé au Sénégal, par exemple, aujourd'hui. Et c'est un programme qui nous a permis d'identifier des nouveaux exclus de la finance. C'est-à-dire, sont les micro-entreprises qui sont devenues un peu plus développées, mais qui n'ont toujours pas accès aux services financiers. Et sont des entreprises, on cible notamment des entreprises menées par des femmes, encore une fois, ce qui fait que ces entreprises-là peuvent jouer un rôle très important dans les développements locaux. Parce qu'à la fois, elles peuvent être des fournisseurs de travail, de business pour les micro-entrepreneurs. Et donc, il y a un développement de l'écosystème local qui est très important. Et eux, sont toujours pas ciblés par les banques locales.
Comment est-ce que, si on revient sur l'exemple, par exemple, de la femme qui gère son propre business, si jamais il y a un temps où ça se passe moins bien, comment est-ce que vous évitez que, par exemple, les agents des institutions de microfinancement exercent trop de pression les gens pour, en fait, rembourser les crédits?
Oui. Comme je disais tout à l'heure, nous, on suit et on applique les standards universels. Donc, on a toute une série d'actions et des formations aussi que les agents des crédits auxquels sont tenus à suivre et toujours des actions à l'intérieur de l'institution de microfinance. Donc tout ce qui concerne les bonus ne doivent pas mettre trop pression dans la collecte de remboursement par exemple vis-à-vis des clients, mais suivre les clients dans son développement. Ça ne veut pas dire que les clients de volonté ne doivent pas rembourser ou la cliente ne doit pas rembourser son prêt, mais faire de tout pour qu'il puisse y avoir des rénovations, des rééchelonnements suite à des situations particulières des crises. La microfinance se base beaucoup sur ce qui est la garantie solidaire, donc c'est-à-dire le soutien de la communauté. Elle est née comme ça, en fait, en termes de vraiment des méthodologies différentes de l'octroi de crédit traditionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a normalement des groupes, des personnes, 4 ou 5 femmes, qui s'engage solidairement pour pouvoir rembourser le prêt. Donc, si une personne est temporairement en difficulté, il y a souvent une ou l'autre personne qui peut rembourser à sa place et par la suite, ce sera elle qui remboursera pour les autres ou qui alignera les services.
Vous êtes également présent dans le domaine de la recherche, surtout pour analyser ce que pourraient être les besoins dans le futur. Est-ce que vous avez déjà une idée vague? Comment ça peut changer? Est-ce que peut-être également les pays cibles vont changer ou...
Tout à fait. La recherche est ce que nous on appelle les knowledge sharing. Donc tout ce qui est l'échange des connaissances, c'est un des piliers de nos activités. C'est très important pour les secteurs de pouvoir apprendre des leçons et des erreurs, des bonnes pratiques. Et l'échange fait partie vraiment de notre principale activité. En termes de recherche, on a une collaboration avec l'Université du Luxembourg. Nous, on travaille beaucoup en partenariat. C'est vraiment notre façon de faire. Et avec l'Université du Luxembourg, on a lancé il y a 4 ans une chaire en droit de la finance inclusive qui permet d'analyser les différentes régulations dans les différents pays pour pouvoir permettre d'avoir un cadre réglementaire dans lequel la finance inclusive se développe de la meilleure manière. Les nouvelles tendances sont le digital, la finance agricole et surtout tout ce qui est finance pour des produits qui peuvent aider à combattre les effets négatifs du changement climatique.
Donc les green microfinance.
Les green microfinance, tout à fait.
Donc, vous avez déjà là, un peu parlé aussi le changement climatique. Est-ce que vous pensez, enfin, quel peut être l'impact que le changement climatique peut avoir sur le développement autonome de vos bénéficiaires?
Alors, ça peut être un impact très négatif dans le sens que les populations les plus affectées sont celles qui vivent dans des pays dans lesquels la précarité est la plus importante. Donc nous, on essaie de développer la résilience de nos clients. La résilience parce que ça permet d'avoir une certaine élasticité dans les développements des activités, des changements. Mais il y a d'autres services qu'on peut apporter, qu'on est en train de développer aussi vis-à-vis du changement climatique. L'agriculture est très fortement impactée et donc des produits, des micro-assurances par exemple pour les secteurs agricoles sont très demandés et on travaille en partenariat avec d'autres organisations pour pouvoir offrir ce type d'initiative.
Lara Foschi, merci beaucoup pour l'entretien.
Merci beaucoup à vous.
Mit der Direktorin von der ONG ADA, Laura Foschi, ging jetzt über Mikrofinanzen im Bereich von der autonomen Entwicklung. Françoise Keller wird durch Gespräch geführt.